Tipo de Radio France Internationale.
Non, disse così.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en espagnol, Lucille Gimbert.
Buenas tardes.
À propos de la Bolivie où la nomination d'un ancien ministre de l'économie comme candidat du MAS fait polémique. Adriana Moises de la rédaction brésilienne.
Buenas tardes.
Concernant la démission du secrétaire d'État de la Culture après son discours paraphrasant Goebbels. Et puis Matei Vichniec de la rédaction roumaine.
Buenas tardes.
Pour la commémoration de la libération d'Auschwitz, le président roumain ayant fait le déplacement à Jérusalem cette semaine. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la nouvelle épidémie de pneumonie virale partie de Wuhan en Chine, qui a déjà fait de nombreuses victimes. Et des cas ont été détectés ailleurs dans le monde, comme aux États-Unis. Par mesure de précaution, ce sont donc des dizaines de millions de Chinois qui sont confinés chez eux en quarantaine. Ils doivent rester dans leur ville. Or, c'est le nouvel an et à cette occasion, généralement, des foules se déplacent dans le pays pour rejoindre leur famille. Alors, Matei Vichniec, des mesures drastiques ont donc été prises par les autorités chinoises. Elles sont d'ailleurs spectaculaires.
Il y a des analystes qui disent que seulement dans deux pays, en Chine et aux États-Unis, l'État est capable d'imposer des mesures si drastiques et d'une manière si rapide et efficace. En Chine donc, construction de nouveaux hôpitaux pour 1000 malades en 10 jours seulement, plus de 40 millions de personnes pratiquement en quarantaine, beaucoup de festivités annulées, fermeture de nombreux sites touristiques et beaucoup de monuments aussi, comme la cité interdite à Pékin ou le parc Disney à Shanghai, contrôle de la température des passagers dans les aéroports, obligation pour tout le monde de porter une masque sanitaire. Les autorités chinoises donnent un exemple respectable d'ailleurs d'efficacité et de responsabilité. Mais cela provoque aussi de l'inquiétude. J'ai assisté à des débats où certains journalistes soupçonnent les autorités chinoises de cacher quelque chose vu l'ampleur de mesures. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a que la prévention qui pourrait arrêter la propagation du virus.
Alors justement, Adriana Moises, vous avez joint un spécialiste brésilien de la santé. Pour lui, quels sont les aspects les plus inquiétants de cette épidémie en Chine?
On a parlé au professeur Pedro Vasconcelos au Brésil. Il a dit que maintenant que la transmission humaine du virus est confirmée, l'inquiétude repose surtout dans les modalités de transmission, l'absence des vaccins et des traitements, ainsi que les taux de mortalité de cette mutation du coronavirus. Les mesures prises par les autorités chinoises pour contenir l'expansion de la maladie, avec les confinements de plus de 40 millions de personnes et la fermeture de nombreux sites populaires, semblent aller dans la bonne direction. Mais l'annonce aujourd'hui de deux décès signalés loin de l'épicentre de l'épidémie, un dans la région qui entoure Pékin et l'autre dans une province frontalière de la Russie, montre que l'épidémie est encore en progression.
Et vous, Lucille Gimbert, vous avez interviewé une chercheuse espagnole qui travaille sur les coronavirus au Centre National de Biotechnologie à Barcelone. Tout d'abord, pour en savoir plus sur les modes de transmission de ce virus.
Oui, Sonia Zúñiga, c'est son nom, et la scientifique nous a expliqué qu'on est loin de tout savoir concernant la transmission du virus. On l'écoute.
En primer lugar, probablemente se transmitió de algún tipo de animal al ser humano. El animal en concreto todavía está por encontrar.
Alors, que vous a-t-il dit?
Alors, d'après cette spécialiste des coronavirus, ce que l'on sait pour le moment, c'est que ce virus a été transmis à l'homme par un animal. Un animal, selon les premières études, proche du cerf, mais rien n'a été confirmé, souligne-t-elle. La revue de l'Académie des sciences chinoises parle de la chauve-souris également, qui aurait pu servir de réservoir à ce nouveau coronavirus. Et enfin, un article du journal de virologie médicale affirmait mercredi, que le serpent pourrait avoir servi d'intermédiaire avec l'être humain. Les faits ont aussi démontré que ce coronavirus inconnu se transmet entre les êtres humains. Adriana le disait il y a un instant, mais on ne sait pas encore si pour être contagieux, il faut avoir beaucoup de symptômes ou si une personne peu ou pas symptomatique présente le même risque de contagion.
Alors, des mesures ont été prises. Est-ce qu'elles sont efficaces? Quelles sont d'ailleurs les actions à prendre pour dimensionner le problème, hein, et faire face à ce virus inconnu jusque-là?
D'après la chercheuse Sonia Zúñiga, les deux principales actions à prendre sont déjà en cours face à ce genre d'épidémie. Il faut d'abord contrôler l'expansion du virus, éviter qu'il se dissémine au niveau mondial. Et ça, la communauté internationale sait le faire, car elle a appris de l'expérience de l'épidémie de SARS en 2002-2003, c'est ce qu'elle assure. Deuxièmement, il faut trouver l'origine de ce virus. Ça veut dire trouver l'animal en cause pour contrôler le foyer initial de l'infection. Car même si les autorités chinoises ont fermé ce fameux marché de Wuhan, considéré considéré comme l'épicentre du nouveau coronavirus. Il peut y avoir ailleurs des animaux du même type qui continuent à le transmettre. Rappelons que l'épidémie de SRAS en 2003 était partie de la civette, un petit mammifère que l'on trouvait facilement sur les marchés de Canton en Chine malgré son interdiction à la consommation.
Oui, justement, Mathieu Vichniac, pourquoi est-ce que ce virus effraie le monde alors que pour l'instant il a fait beaucoup moins de victimes que la banale grippe? Est-ce que c'est parce que justement il y a le souvenir du SRAS?
Bonne question. Il ne faut pas oublier par exemple qu'en France, l'épidémie du grippe est responsable rien que pour l'hiver passé de milliers de décès. Mais le coronavirus nous rappelle qu'en 2002-2003, le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, a fait presque 800 morts. Ce type de virus est difficilement contrôlable, il n'existe pas de vaccin ou de traitement antiviral adapté, et il existe toujours une angoisse supplémentaire devant le virus qui se propage vite dans un monde globalisé, où les gens circulent beaucoup. Rien qu'en Chine, lors du Nouvel An chinois, se déplacent environ 400 millions de Chinois. C'est le plus grand phénomène migratoire de l'année sur la planète. En Roumanie, par exemple, je dis ça entre parenthèses, depuis quelques jours, plusieurs artistes sont en quarantaine après avoir effectué une tournée de 2 mois et demi en Chine, dont dans la ville de Wuhan.
Voilà pour la Roumanie. Et pour le Brésil, Adrien Moisés, est-ce qu'il y a des cas suspects de contamination par ce coronavirus?
Les ministères de la Santé brésiliens ont enregistré ces derniers jours 5 cas suspects dans 5 régions du pays, mais après l'évaluation des patients selon les critères préconisés par l'Organisation mondiale de la Santé, le diagnostic a été écarté pour tous ces malades. Ils présentaient des symptômes grippaux, mais ils ne sont pas porteurs de la nouvelle mutation du coronavirus apparue en Chine. Ceci dit, depuis hier, le ministère de la Santé brésilien a déclenché une alerte des risques de transmission du coronavirus vers le Brésil. Dans une échelle de 1 à 3, les autorités sanitaires brésiliennes ont placé les pays dans les niveaux 1, l'équivalent d'un risque initial.
Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière pour l'instant au Brésil?
Pas exactement. Nous avons justement, comme je disais tout à l'heure, interviewé le virologiste Pedro Vasconcelos, qui est président de la Société brésilienne de médecine tropicale. Il a signalé que la propagation du coronavirus est préoccupante et nécessite une attention de la population. On va l'écouter.
Donc, quelle est son analyse?
Selon le docteur Vasconcelos, aucun pays n'est prêt à confronter l'arrivée d'un nouveau virus, surtout de gravité sévère. Il a rappelé l'épidémie du virus Zika qui a touché le Brésil en 2015 et a entraîné une vague de naissances des bébés microcéphales. L'épidémie du Zika a été à l'origine d'une alerte d'urgence internationale par l'OMS en faisant une comparaison entre la situation actuelle du coronavirus en Chine et celle du Zika en 2015-2016 au Brésil, les virologistes disent que le Zika allumait le feu rouge, tandis que la situation du coronavirus serait d'un feu jaune.
Vous parliez de l'OMS. Mathieu Vichniac, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore déclaré l'urgence internationale, mais ce nouveau virus effraie le monde pour d'autres raisons également, parce que nous sommes tous fascinés par des scénarios apocalyptiques, vous diriez cela?
Eh bien oui, l'industrie du cinéma a nous a habitués avec cela, mais aussi la littérature de science-fiction et les médias. Il y a énormément de menaces qui pèsent sur l'humanité et le monde. Réchauffement climatique, épuisement des ressources, pandémie, surpopulation. Tous les jours, il y a pratiquement des alertes qui viennent de la part des chercheurs, des économistes, des responsables politiques et des artistes. L'année passée, par exemple, le Festival de science-fiction du Lyon, il a eu comme thème les différents scénarios de la fin du monde. L'idée de la Apocalypse est déjà installée dans notre imaginaire et dans notre conscience collective. Et je cite un auteur qui disait, lors des débats de l'année passée à Lyon, que le virus est le moyen le plus plausible pour détruire les systèmes et de désorganiser complètement nos sociétés. D'où, à mon avis, cette question qui ressurgit chaque fois qu'un virus nouveau commence à faire des victimes et à se propager. On se demande instinctivement, ce n'est pas peut-être le virus fatal?
Eh bien, écoutez, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Bienvenue à cet informatif de Radio Live with me, today's
headlines. Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous maintenant à des sujets particulièrement traités par la rédaction en langues étrangères de RFI. La rédaction en espagnol a choisi de nous parler cette semaine de la Bolivie. Trois mois après la crise post-électorale qui a fait 36 morts, l'ancien président de gauche, Evo Morales, a désigné le duo qui tentera aux élections présidentielles de mai prochain de redonner le pouvoir à son parti. Il s'agit d'une part de Luis Arce, ancien ministre de l'économie de Morales, père du boom économique du pays, et puis d'autre part, l'ancien ministre des Affaires étrangères, David Choquehuanca. Lucie Gimbert, cette nomination n'est pas du goût de tout le monde.
Non, Luis Arce, c'est le choix d'Evo Morales. L'ancien président, forcé à démissionner après des élections entachées et irrégularité en octobre et qui est interdit de se représenter, a même imposé ce choix aux multiples secteurs qui composent son parti. Son parti, c'est le MAS, le mouvement vers le socialisme. Choisir Arce, c'est mettre la réussite économique des 14 dernières années, des 14 années de pouvoir d'Evo Morales, au premier plan dans les arguments de campagne. Ministre de l'économie de 2006 à 2017, puis à nouveau en 2019, Luis Arce est l'artisan, on le disait, de ce boom économique. Durant les trois mandats de Morales, les prix élevés du pétrole, la nationalisation des hydrocarbures, décidé en 2006 au tout début de ses mandats et les politiques de redistribution qui ont permis d'améliorer la vie de nombreux Boliviens et de financer des infrastructures. Et cela, ça va compter et ça compte au moment de voter, me disait déjà en octobre dernier Luis Arce lui-même, le ministre, est aujourd'hui candidat dans son bureau à La Paz.
Va a ser el séptimo año bajo el presidente Evo que Bolivia lidera el crecimiento económico en Sudamérica.
À l'époque, il était ministre, aujourd'hui candidat à la présidence, que dit-il?
Et alors, il souligne le fait que les chiffres de la croissance en Bolivie en 2019 sont les meilleurs d'Amérique du Sud et pour la septième année. Et il souligne aussi que la pauvreté a été fortement réduite sous les mandats d'Evo Morales. En choisissant Arce, Evo Morales fait aussi un deuxième pari, celui de tenter de reconquérir la classe moyenne. Une classe moyenne qui a bénéficié de ses bons résultats économiques, mais qui s'est éloignée du MAS, du mouvement d'Evo Morales et qui s'est éloigné de la personnalité du président. Pour deux raisons. D'abord, la pratique clientéliste du pouvoir de la part du MAS et puis le non-respect de la part de l'ancien président Evo Morales du vote populaire de 2016 lorsqu'une majorité de Boliviens avait dit non à une nouvelle candidature de sa part lors d'un référendum. Arce, c'est un économiste formé en Bolivie et à l'étranger. Il fait partie de cette classe moyenne éduquée et blanche de La Paz, de la capitale. Il vient du Parti socialiste et n'a rejoint le MAS que tard, juste avant la première élection. Il va donc essayer de convaincre cette classe moyenne qui est aujourd'hui tentée par la droite et le centre.
Ouais, il a beaucoup, beaucoup à convaincre parce que même au sein de son parti, Morales, le choix de Luis Arce a fait beaucoup de mécontents, même si finalement sa candidature a donc été entérinée.
Oui, et les critiques exprimées haut et fort ont montré une nouvelle fois les fissures qui existent au sein du MAS. Plus qu'un parti politique, c'est un agglomérat de mouvements sociaux, en fait, de corporations, de différents secteurs et régions de Bolivie, avec notamment des producteurs de coca, des mineurs, des indiens, des différentes ethnies. Le candidat favori de ces mouvements, ou majoritaire en tout cas, c'était David Choquehuanca, finalement candidat à la vice-présidence numéro 2 sur le ticket. L'ancien ministre des Affaires étrangères est un des fondateurs du parti Morales. Il vient d'un mouvement paysan autochtone et est né dans une communauté aymara de la campagne autour de La Paz. Écoutez d'ailleurs le sénateur du MAS, Omar Aguilar, qui défendait cette candidature il y a quelques jours à peine sur notre antenne.
Il s'agit donc du sénateur Omar Aguilar.
Oui, il dit que c'est plus logique qu'un Indien, qu'un paysan représente le MAS. C'est ça le visage du MAS, dit-il, et il explique que le principal réservoir d'électeurs du parti d'Evo Morales, les plus fidèles, eh bien, il se trouve dans les zones rurales et dans les zones autochtones du pays, pas au sein de cette classe moyenne que vise Arce. Mais voilà, David Choquehuanca risquait de faire de l'ombre à Evo Morales. C'est d'ailleurs pour ça que l'ancien président l'avait écarté du gouvernement en 2017 pour s'assurer d'être le seul candidat en 2019.
Les Morales qui pensent que ce duo respecte les équilibres nécessaires. C'était Lucille Gimbert de la rédaction en espagnol de RFI. Ce jeudi, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient à Jérusalem pour la célébration du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Matej Wiśniewski, sur l'antenne de la rédaction en langue roumaine, il a été question de la bataille des mémoires. Qu'est-ce à dire ?
C'est une bataille de mémoire entre la Russie et la Pologne. J'ai cité un article publié par Le Monde où on parle de la lecture nationaliste de l'histoire comme arme politique. Jérusalem a été invité aussi le président polonais Andrzej Duda, mais il a refusé de venir car on ne lui a pas proposé de prononcer aussi un discours. Or, Andrzej Duda ne voulait pas se retrouver dans la situation d'écouter passivement le président russe Vladimir Poutine, qui, je cite encore Le Monde, est engagé dans une croisade visant à réécrire le rôle de l'Union soviétique dans la guerre. Je signale qu'une autre célébration est prévue lundi 27 janvier, cette fois en Pologne, sur le site même d'Auschwitz, mais que le grand absent cette fois des cérémonies sera Vladimir Poutine.
Est-ce que cette bataille est seulement mémorielle ou est-ce qu'elle est également politique, Mathieu ?
Il faut dire que Vladimir Poutine a été extrêmement mécontent quand, en septembre l'année passée, le Parlement de Strasbourg a adopté une résolution sur la mémoire européenne qui mettait sur le même plan le communisme et le nazisme. Dans cette résolution est dénoncé aussi le pacte Ribbentrop-Molotov signé en 1939 entre Hitler et Staline, en effet. Depuis, Poutine accuse la Pologne, depuis la résolution de Strasbourg, Poutine accuse la Pologne et même l'Union européenne de vouloir réécrire l'histoire. Pour lui, la Pologne n'est pas la première victime de la guerre, mais un pays qui aurait même eu un rôle dans le déclenchement de la guerre. En effet, nous avons autant à Varsovie qu'à Moscou une lecture nationaliste de l'histoire et dans les deux cas, on veut effacer la lecture critique de l'histoire, dit toujours Le Monde.
Et puis il y a les déclarations du président français Emmanuel Macron, d'autant qu'il essaie de renouer le dialogue avec Moscou en ce moment.
La Shoah ne peut pas être utilisée pour justifier la division ou la haine contemporaine, a déclaré parmi d'autres Emmanuel Macron. Il a annoncé sa présence en mai à Moscou pour les célébrations qui vont marquer 75 ans depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parmi les chefs d'État qui étaient jeudi à Jérusalem, il y avait aussi le président roumain Klaus Iohannis, natif allemand de Roumanie, et président, chef d'État. Il a fait des déclarations concernant les efforts en Roumanie pour combattre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations. La Roumanie a connu assez tard, seulement après la chute du communisme, sa part de responsabilité pour la mort d'un grand nombre de juifs, entre 200 000 et 300 000, la plupart morts en déportation.
Matthieu Vichniec, de la rédaction roumaine. Et puis au Brésil, une nomination qui fait des remous, celle du nouveau secrétaire de la culture par le président Jair Bolsonaro. L'ancien titulaire a été limogé après avoir paraphrasé donc un discours de Goebbels, le responsable de la propagande nazie sous le Troisième Reich. Adriana Moïses, dites-nous en plus sur la manière dont a été accueillie cette nomination.
Alors, le président Bolsonaro a indiqué l'actrice Regina Duarte, très très connue au Brésil, 72 ans, 50 ans de carrière dans la télé, le cinéma et les théâtres, pour donc remplacer Roberto Alvim, qui a été limogé à cause de sa vidéo nazie. Au début, la classe artistique a bien accueilli cette indication de Regina Duarte. Pour que vous ayez une idée de sa popularité, elle est connue au Brésil comme la petite fiancée du pays. Elle n'a jamais caché son orientation à droite, mais les gens ont pensé, elle a une sensibilité artistique, il y aura au moins la possibilité d'un dialogue avec elle. Mais rebolote, Regina Duarte arrive à Brasilia et nomme comme son adjointe une pasteur évangélique, Jeanne Silva. C'est la douche d'eau froide, la méfiance revient dans le secteur culturel. En plus, un reportage du magazine Veja a révélé cette semaine qu'elle doit rendre Regina Duarte 80 000 euros des subventions publiques qu'elle a eues pour financer une pièce de théâtre tachée d'irrégularités comptables. Donc, affaire à suivre.
Au-delà de cette polémique, on constate que la cote de popularité du président brésilien remonte. Comment expliquer cela ?
C'est vrai, Bolsonaro a vu sa cote de popularité remonter à 47% ce mois-ci contre 41% au mois d'août dernier. L'économie brésilienne a montré en fin d'année des premiers signes d'embellie, mais son gouvernement, on doit le rappeler, reste à l'origine de nombreuses polémiques sur des sujets sensibles comme les droits de l'homme, l'éducation, la culture et surtout l'environnement. Il y a un professeur de l'université de Campinas, Francisco Lopreato, qui rappelle qu'il le Troisième Reich aussi a une période de boom économique, mais ça ne peut pas durer, cette séparation entre l'économie et la politique. Il faut que M. Bolsonaro trouve un beau milieu entre ces deux politiques de son gouvernement.
Adriana Moïsès de la rédaction brésilienne de RFI. Et puis sachez, à propos des rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale, que RFI a franchi à la fin de l'année la barre des 100 000 abonnés sur la page YouTube de sa rédaction en Khmer. Elle compte aujourd'hui plus de 120 000 abonnés, alors qu'il y a un an, elle en comptait que 5 000. Elle enregistre plus de 11 millions de vidéos vues en 2019. Bravo à la rédaction donc Khmer de RFI. C'était Accent du Monde sur Radio France Internationale.